Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, nous aurions pu rendre un hommage à Jean-Claude Carrière pour l'ensemble de son œuvre, mais cela attendra la semaine prochaine. Le blind test de cette semaine concernera des films avec des personnages de réalisateurs, mais sans qu'il s'agisse de biopics. Et donc c'est à l'occasion de la sortie sur Netflix de Malcolm and Mary de Sam Levinson, dont nous parlera Marine. Mais vous, vous avez un autre programme, messieurs. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Eh bien, je vais revenir sur, à mon avis, un des plus beaux films de l'année 2020, La femme qui s'est enfuie, qui sort donc en DVD et en VOD chez Capricci.
Et toi, tu es encore à la recherche de Sean Connery, Guillaume.
C'est ça, je suis toujours en 75, je suis toujours avec John Huston, et c'est pour L'homme qui voulut être roi.
Mais on commence cette émission avec un film entre Star Wars et les Gardiens de la Galaxie, dit-on, oui, mais en nettement moins bien.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Blockbuster de science-fiction Space Sweepers devait sortir en Corée du Sud pendant l'année 2020, mais après plusieurs décalages de sortie, eh bien c'est Netflix qui l'a pris dans ses filets. Alors dommage, car ce film est assurément calibré pour le cinéma, car il comporte de nombreuses séquences très riches en effets spéciaux et nous plonge dans un univers fourni en détail. Mais on se contentera d'un écran donc pour suivre ce space opéra qui va sur les traces d'un Star Wars première époque et d'un Gardien de la Galaxie quand il s'agit de mettre un peu d'humour et de fournir des personnages décalés. Alors autant l'avouer d'emblée, le scénario est plutôt paresseux. Les scénaristes ont poussé le curseur jusqu'à l'année 2092 et le monde qu'ils voient dans 70 ans est assurément un monde que même Elon Musk, le multimilliardaire qui veut envoyer sa navette sur Mars, eh bien, ne serait pas capable d'annoncer sur Twitter. Mais une fois qu'on dépasse ce problème de vision, on tente au moins de comprendre ce monde. Et c'est celui avec, d'un côté, alors une terre à moitié asphyxiée et de l'autre, une cité dans l'espace où la vie est agréable avec des vertes prairies, des cascades et des parties de golf qui sont promises à des gens qui peuvent se l'offrir. Autour, l'espace est une décharge. Ce monde est régi par une entreprise menée par une sorte de Mark Zuckerberg centenaire dont on sent très vite qu'il ne veut du bien à personne, sinon à lui. Ce monde étant posé, les personnages que l'on va suivre bien forment un équipage, celui du Victory. Il s'agit d'un vaisseau permettant de capturer des débris. Ce sont donc de vulgaires ferrailleurs de l'espace qui ne ménagent pas leurs efforts pour au mieux parvenir à payer leurs dettes. Alors un jour, en pleine mission de nettoyage, eh bien, l'équipe du vaisseau Victory découvre Dorothy, une fillette cachée dans leur vaisseau. Ils découvrent par la suite qu'elle est spéciale. Il s'agit d'un droïde qui, dit-on, cache une bombe à hydrogène et elle est activement recherchée. L'équipage se sent d'un coup millionnaire, car s'ils livrent la petite fille, eh bien, ils auront une rançon donnée par un groupe d'extrémistes luttant contre l'ordre établi. Voilà l'intrigue qui va se développer pendant plus de 2h20 à l'intérieur d'un récit qui se partage entre prouesses visuelles, moments de comédie, poursuites dans l'espace et tensions dramatiques. On compare ce film au Gardien de la Galaxie, car il est vrai que l'équipage du vaisseau est formé de membres singuliers. Là, on a là un droïde à la place d'un raton laveur. Mais on est quand même très loin de l'humour de la franchise Marvel. On compare aussi ce film à Star Wars pour son côté space opéra. Alors il est vrai qu'on reste un moment dans l'espace, qu'on distingue presque une étoile noire à un moment, mais ici la quête du bien et du mal n'est pas aussi tranchée. Toutefois, les ressorts scénaristiques sont un peu trop gros pour que les rebondissements soient tout à fait étonnants. Il n'est pas impossible de passer un bon moment devant Space Sweepers, d'autant que les effets spéciaux ne sont pas complètement indigents malgré un budget qui est pourtant raisonnable, 20 millions de dollars, mais on a quand même l'impression d'être dans la seconde division du film de science-fiction. La mise en scène parfois brouillonne ne nous aide d'ailleurs pas à monter d'un cran. Alors il y a quand même des points positifs, un casting international avec des méchants surtout blancs occidentaux, pourquoi pas, et des personnages qui parlent toutes les langues, même le français. Et puis une vraie identité visuelle à défaut de brosser un monde totalement cohérent. Voilà, l'essentiel est là. Space Sweepers de Jo Sung-hee, c'est disponible donc sur Netflix à défaut d'être disponible en salle. On va rester en Corée, mais on va redescendre sur Terre avec Hong Sang-soo, La femme qui s'est enfuie. C'est une sortie VOD-DVD.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Oh.
우리는 매일 붙어 있죠, 뭐.
어ui, on revient donc à, on va dire, à une atmosphère, enfin une ambiance un peu plus confinée. Hein. La femme qui s'est enfuie est l'un des plus beaux films de l'année 2020, hein, qui ne cesse de grandir avec le temps, bah, en dépit ou grâce à son apparente simplicité. Hein, et il sort enfin en DVD, VOD chez Capricci. Alors le récit, hein, ténu, hein, sous forme de haïku, un peu recèle de trésors et de subtilités narratives, déjouant sans cesse nos attentes à l'image de cette conversation entre le personnage central, Gemi, et une de ses amies lors de sa première rencontre. Gemi apprend que la femme qui habite en face de son amie s'est enfuie, abandonnant son mari et sa fille. Alors ce serait donc elle, la femme qui s'est enfuie, explication prosaïque du titre, sauf que cette histoire reste anecdotique, laissant le spectateur avec un sentiment de frustration, déçu de ne pas en apprendre davantage. Mais cette petite révélation n'est qu'un leurre. Chez Hong Sang-soo, les événements les plus anodins se décuplent, rentrent en résonance et interaction avec les personnages. Il existe toujours dans le cinéma du coréen une réversibilité ou un effet miroir. Cet effet miroir concerne évidemment Gemi, qui est sans doute, mais là encore rien n'est sûr car tout est suggéré, jamais explicité, cette femme qui s'est enfuie. Elle ne cesse de répéter à ses convives, amis de longue date, qu'il s'agit de la première fois qu'elle se sépare de son mari. Alors pas dans le sens de séparation, mais juste être sans lui ne serait-ce qu'une seule journée. Elle évoque la relation conjugale à travers les mots de son mari, persuadé que la liaison fusionnelle est une preuve d'amour indéfectible. Mais qu'en pense Gemi ? On ne le saura jamais vraiment. Elle ne cesse de ressasser le même discours à chacune de ses retrouvailles. Mais au détour d'un plan apparaît donc une tristesse et une résignation sur le visage de cette jeune femme heureuse en apparence. Alors cette introduction, hein, ne nous indique que partiellement ce que raconte le 24e long métrage de Hong Sang-soo en 24 ans. Une logique, on va dire un film par an en moyenne, mais il en a réalisé des fois deux ou trois dans l'année, avec en espaçant parfois certains de ses longs métrages. Mais l'essentiel est dans les subtiles variations d'un cinéma qui ne cesse d'encercler les contours d'un même sujet, la rencontre. Mais une fois n'est pas coutume, ici il s'agit de rencontres entre femmes, évacuant la notion de désir et de séduction dans une visée charnelle. Le talent édifiant, insolent même de Hong Sang-soo éclate encore une fois avec un dispositif d'une désarmante simplicité, créant un récit atone en surface, mais d'une intelligence peu commune. Gemi rend visite à trois amis pendant que son mari est en voyage d'affaires. Chacune de ces visites va être interrompue par un homme, créant une rupture, un malaise, laissant planer une inquiétude, brisant l'espace de paix qui se joue dans chacun des trois mini-récits. Alors en effet, Hong Sang-soo filme des femmes, souvent attablées autour d'un repas et d'un verre, hein, cadre fétiche du cinéaste. Les échanges sont cordiaux et convenus, mais même ancré dans un réalisme inhabituel au cinéma, sont évoquées la nourriture, la viande, la boisson, le voisinage, l'immobilier, ces petits riens qui rythment nos discussions avec autrui. Alors il se glisse aussi des questionnements plus philosophiques indiquant le bien-être de ces femmes à se retrouver ensemble. Alors ce havre de paix est très rassurant pour l'héroïne, Gemi, venue sans doute chercher du réconfort, se trouve soudain violentée par l'irruption des hommes lors de chaque rencontre. Alors la première apparition est aussi drôle qu'absurde. Un voisin se plaint des chats errants lors d'une conversation hilarante et absurde sur la place des hommes et des chats d'un point de vue existentiel. Ensuite, un ex-amant poète insiste lourdement sur le palier pour renouer une relation qui n'a jamais commencé. Enfin, un metteur en scène, marié aujourd'hui avec une de ses amies, fait une crise à Gemi, soudain très mal à l'aise. Alors tout converge vers cette ultime rencontre déchirante, presque intime, car il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre qu'il s'agit d'un autoportrait sous forme de critique quasi-masochiste. Hong Sang-soo n'a jamais été tendre avec les hommes, hein, tour à tour lâche, immature, auto-centré, mais jamais il ne les avait dépeints sous un jour aussi sombre, presque destructeur. Alors il le fait sans rien à appuyer, un simple mot, un geste déplacé, une attitude suffisent pour instaurer une angoisse existentielle dès l'apparition de ces figures perturbatrices. Alors si à la première vision, la femme qui s'est enfuie laisse une impression d'inachevé et d'amertume, il s'agit encore d'un leurre. Alors derrière une forme presque anodine, hein, avec ses zooms incongrus et ses compositions musicales minimalistes, se cache un magnifique portrait de femme, en l'occurrence celui de Gemi interprété avec une grâce inouïe par une Kim Mi-hee, tout en intériorité. Et à l'époque, j'avais trouvé le film un peu plus faible que Hotel by the River, et avec le temps finalement les deux films se valent, mais ils sont très différents, l'un est plus solaire et l'autre plus sombre.
Eh bien, un jour que nous n'aurons rien à dire dans cette émission, on compilera toutes les chroniques que tu as fait, donc Sang-soo, puisqu'il fait un film par an.
Oui, j'ai dû faire 7 ou 8 à peu près, voilà, depuis.
Voilà, ce serait peut-être un petit exercice à faire, une expérimentation radiophonique. Après Tenet, voici une romance pour John David Washington dans Malcolm and Mary, un film de fils d'eux, hein, puisque outre le fils de Denzel Washington, eh bien, on retrouve le fils de Barry Levinson. à la réalisation, Barry Levinson, c'était Rainman notamment. Voici donc une chronique présentée par Marine, Malcolm et Mary. Ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial réalisateur dans les films de fiction.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Malcolm, réalisateur afro-américain engagé et prometteur, revient de l'avant-première de son film qui a su convaincre la critique et le public. Grisé par le succès, il rentre passer la nuit dans la somptueuse demeure louée par la production, en compagnie de Marie, sa petite amie, ex-comédienne et ex-toxicomane, qui semble, à l'issue de la projection, avoir quelques reproches à lui faire. Qui a envie d'assister à une dispute de couple longue de 1h40 ? Car oui, regardez Malcolm et Marie, c'est un peu comme si vous passiez la soirée à entendre vos voisins régler leurs comptes dans votre appartement mal isolé, et comme si vous étiez à la fois agacé par ces éclats de voix et en même temps totalement fasciné par leur altercation. C'est cette immersion impudique dans l'intimité d'un couple prêt à voler en éclats que Sam Levinson a su, contre toute attente, rendre absolument passionnante. Malcolm et Marie est un film en forme d'oxymore qui repose sur les contrastes. L'usage de la pellicule associé à un très beau travail sur la lumière accentue l'utilisation du noir et blanc. Les lumières de l'intérieur de la maison, seul décor du film, créent un espace d'affrontement en contraste avec l'obscurité du dehors. Les protagonistes oscillent en permanence entre l'amour et la haine. Et le simple concept du film réside en une confrontation entre le glamour de Hollywood et la simplicité d'un cinéma artisanal, puisque le réalisateur Sam Levinson a ici réuni deux stars, Zendaya et John David Washington, dans ce projet écrit en seulement 6 jours et tourné en 2 semaines avec une équipe ultra réduite au cours du premier confinement au printemps dernier. Après le relativement insupportable drame familial Another Happy Day et le très déjanté Assassination Nation, pamphlet contre la société américaine 2.0 d'un mauvais goût assez jouissif, Sam Levinson s'est illustré dans la série Euphoria, dans laquelle Zendaya semblait d'ailleurs interpréter une version adolescente de son personnage de Malcolm et Marie. Ici, il change radicalement de style en adoptant une certaine épure pour mettre en scène ce long duel amoureux. Et si cette joute verbale a pour sujet central le cinéma et l'amour du cinéma, elle permet finalement au film d'aborder une pluralité de thématiques, le racisme, la critique, l'addiction, la jalousie, la politique ou encore l'art. Mais au final, le film, qui pourtant n'est qu'un long dialogue, démontre surtout l'incapacité d'un couple à communiquer, thème on ne peut plus universel. On est devant un véritable exercice de style, hein, et davantage que cela, eh bien, l'existence même de ce film, né en pleine pandémie, est la preuve que le cinéma, qu'importe le contexte, réussit toujours à se frayer un chemin. Et précision importante, c'est sans doute la meilleure BO de l'année, et pourtant, on n'est qu'en février.
This is Cinerama.
Malcolm and Mary de Sam Levinson est donc disponible sur Netflix. Et ce film, où eh bien, il y a un réalisateur qui est représenté, nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial réalisateur, donc dans des films de fiction. On s'exerce avec quelque chose qui, normalement, est assez évident.
Eh bien, une première lecture, c'est très confus. L'absence d'un thème majeur, ou si vous préférez, d'un argument philosophique.
Vous ne voulez pas vous asseoir ?
Fait du film une suite d'épisodes absolument gratuits, qui ne manquent d'ailleurs pas d'être divertissants dans le cadre de leur réalisme ambigu. Mais on se demande ce qu'ont voulu dire les auteurs. Veulent-ils nous obliger à penser ? Veulent-ils nous faire peur ? La composition du début à la fin manque d'envolée poétique. Excusez ma brutalité, mais si la démonstration était encore à faire, cela prouverait que le cinéma est en retard de 50 ans sur les autres arts.
Alors, bah, ça n'a pas été trouvé, curieusement. Je pensais que... Alors, qu'est-ce que je peux donner comme indice ? C'est un grand réalisateur, on va le trouver... si l'indice, je le donne, c'est trop facile. Je devrais réfléchir à tous ces indices à donner, parce que... Donc, il serait italien, ce réalisateur.
C'est 8,5 ?
Ah, mais si.
Oui, 8,5. Federico Fellini.
Eh oui, parce que bon, je l'ai revu très récemment au Cinémède, mais c'était en italien, en fait.
Eh oui, eh oui. Évidemment, ce qui serait impossible, sinon ça voudrait dire que tous nos auditeurs sont polyglottes, et nous-mêmes d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Donc, 8,5, sorti en 1963, donc il a cette réputation d'être l'un des plus grands films de tous les temps, aux côtés de quelques autres hein, quand même. Et c'est l'histoire d'un cinéaste dépressif qui fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers peuplé de fantasmes. C'est avec Marcello Mastroianni et Anouk Aimée. Et durant son tournage, le film s'appelait La Bella Confusione, qui veut dire le beau désordre. Deuxième extrait de ce blind test, je vous rappelle que vous devez trouver le titre d'un film dans lequel il y a un réalisateur.
Tu vas tourner ce film et tu vas en faire un succès où ton avenir se résume à trois mots, chômeur sans abri.
Mais je ne peux pas, comment fais-tu que je...
Je vais te dire comment. Il va falloir que tu te débrouilles jusqu'à ce que ta vue revienne.
Al, je ne peux pas tourner ce film, je suis aveugle.
Est-ce que tu as vu certains films dans les salles?
Il va pas leur falloir 5 minutes pour s'en apercevoir.
Peut-être, mais peut-être pas. Et si c'est le cas, tu t'en tireras pas plus mal que si t'avais avoué, parce que t'es fini dans ce métier de toute façon.
Alors j'aurais dû peut-être commencer par celui-ci, parce que celui-ci, vous l'avez trouvé facilement de concert. C'est
Hollywood Ending.
Oui, film de Woody Allen, sorti sur les écrans en 2002, l'histoire d'un réalisateur névrosé qui se voit offrir la chance de tourner un film, de réaliser un comeback après avoir tourné de nombreuses publicités. Mais à la veille du tournage, il devient aveugle. Allez, nouvel extrait de ce blind test.
Eh bien, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a un fils. Ce fils vient d'épouser une jeune Anglaise et vient la présenter à ses parents.
Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui épouse une jeune Anglaise. Et 3 mois après son mariage, il décide de la présenter à ses parents qui habitent dans une villa au bord de la mer.
Et le personnage que je joue tombe amoureux de sa belle-fille, elle de lui.
Et là, la jeune femme tombe amoureuse de son beau-père.
Et le film illustre la fugue de ce couple illicite.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, je crois que l'histoire est traitée sur le mode tragique et comme dans toute tragédie, chaque personnage vit jusqu'au bout de son destin.
Jean-Pierre Léo.
C'est la nuit américaine, oui. Ouais, de François Truffaut.
Oui. Sorti en 1973, il y avait aussi Jacqueline Bisset dans ce film et Jean-Pierre Aumont. Ferrand, interprété par François Truffaut, réalisateur sourd d'une oreille, modeste mais expérimenté, tourne un mélodrame. Je vous présente Pamela au studio de la Victorine à Nice. Donc voilà l'exemple du film contenant un film avec un réalisateur, mais lui-même réalisateur dans son film. C'est l'Oscar du meilleur film étranger en 1974, mais qui brouilla Godard et Truffaut à jamais. Voilà. Allez, quatrième extrait de ce blind test. Il faut découvrir donc un titre de film avec un réalisateur dans la fiction.
Dis-moi, toutes ces filles avec qui tu as tourné, c'est quand même un drôle de métier, non?
Un peu, oui.
À la base, elles aiment beaucoup le sexe.
Ça aide.
Est-ce qu'elle couche facilement?
Pourquoi tu me demandes ça?
Pour rien. Pour savoir.
Enfin.
Quoi, enfin?
Rien. Rentre chez toi, s'il te plaît.
Et ça a été trouvé. Film français, effectivement, comme j'entendais hors micro.
C'est le pornographe.
Oui. Pornographe réalisé par Bertrand Bonello, sorti en 2001. Et c'était d'ailleurs Jean-Pierre Léo qu'on entendait, mais un peu plus âgé, évidemment. Jacques Laurent, un réalisateur de films pornographiques, Jean-Pierre Léo justement, qui vieillit et contraint de reprendre son activité à la suite de difficultés financières. Il va retrouver son fils Joseph, avec qui il s'est brouillé quelques années auparavant, lorsque ce dernier a découvert quels étaient réellement les films de son père. C'est le Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2001. Dernier extrait de ce blind test.
Comme avec les dieux grecs, la seule relation possible avec notre organisme, c'est le sacrifice. Tout n'est pas aussi physique ou figuratif. Je souffre aussi de troubles abstraits, de douleurs de l'âme, telles que la panique et l'anxiété, qui ajoutent de l'angoisse et de la terreur à ma vie. Et bien sûr, depuis des années, j'ai aussi des périodes de dépression. Les nuits où je suis assailli par plusieurs douleurs, ces nuits-là, je crois en Dieu. Et je le prie. Les jours où je ne souffre que d'une seule douleur, je suis athée.
Donc, ici en studio, ça n'a pas été trouvé. Peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez trouvé, car ce film a quand même été très apprécié en salle. Le gros indice que je peux donner, c'est le prix d'interprétation masculine pour le comédien à Cannes 2019. Donc si vous retrouvez ça, vous retrouvez tout.
Donc c'est un film que je n'ai pas dû voir.
C'était la voix française, une des voix françaises d'Antonio Banderas, parce qu'il me semble pas que ce... enfin bon, il me semblait pas que c'était celle-ci qu'on avait choisie. Donc Antonio Banderas qui interprète un réalisateur.
Ah, de
Doula Rigloire. Oui, Doula
Rigloire.
Oui, film de Pedro Almodovar, donc sorti en 2019. Antonio Banderas interprète Salvador Malo, un réalisateur qui a connu le succès mais qui ne réalise plus de films à cause de nombreuses douleurs physiques dont il souffre. Et là, on en a eu un peu l'exemple. Et on voit une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, et puis d'autres par le souvenir, donc dans la vie de ce réalisateur en souffrance. Ainsi s'achève ce blind test. Puisque nous parlions de 8,5, eh bien on va se faire un petit détour avec Nino Rota qui composait la musique de ce film.
Cinérama.
Guillaume, tu sembles pister Sean Connery après le Maroc, et eh bien voici l'improbable Kafiristan pour l'homme qui voulut être roi.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
J'en dirai le moins possible sur notre profession. Nous avons plus d'un métier à notre actif. Nous avons parcouru l'Inde. Nous connaissons ses villes, ses jungles, ses cols de montagne et ses prisons. Et nous avons décidé que l'Inde, c'est beaucoup trop petit pour des gens comme nous.
Oui, c'est ce que le gouverneur a semblé sous-entendre.
En conséquence, nous allons partir vers un autre pays.
Ah.
Où l'on peut sans entrave atteindre ses ambitions légitimes. Nous ne sommes pas rien, monsieur. Alors nous allons partir et devenir roi. Roi du Kafiristan.
Oh.
1975 fut une grande année pour John Huston. Alors qu'il joue le rôle d'un proche du président Roosevelt dans Le Lion et le Vent de John Milius, avec l'ironie et le charme canaille qu'on lui connaît, il est aussi au générique de L'Homme qui voulut être roi, une autre fable sur le pouvoir, la guerre, la gloire et la place de l'homme dans l'univers, et aussi avec Sean Connery. Mais cette fois, il est de retour derrière la caméra et livre, du haut de ses 70 ans quand même, rien de moins que l'un des plus grands films d'une carrière déjà chargée en œuvres d'exception. En même temps, c'est normal. Hein. Un homme qui a traversé l'existence tel un roi ne pouvait rater ce qui allait se révéler être un beau parallèle avec sa nature profonde d'aventurier.
J'imagine que vous avez roulé votre bosse en Inde.
Oui, et dans tous les sens. À pied, en train, à cheval et à dos de chameau. Vous aussi, vous semblez le connaître, ce pays.
En effet, je suis né en Inde.
Un vrai paradis. Il l'était du moins jusqu'à l'arrivée des bureaucrates qui ont tout gâché. J'espère que vous n'en êtes pas un.
Non, je ne suis pas un bureaucrate.
Non, j'en étais sûr. Ce sont des gars chétifs au long nez pointu dont ils se servent pour vous regarder de haut. Et je n'en ai jamais vu qui m'aient offert à boire. Glenlivet, 12 ans de tonneau.
Vous êtes un fin connaisseur en whisky.
Je suis fin connaisseur en whisky, jolie femme, gilet brodé et repas raffinés. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'y goûter ces derniers temps. Parce que les bureaucrates, ils passent leur journée à gribouiller de nouvelles lois pour empêcher des types comme nous de faire fortune. Et qui sait qu'en souffre ? L'Empire, monsieur !
Dans une nuit indienne sans étoiles, Rudyard Kipling, qui était concentré sur son écriture, est rejoint à son bureau par un mendiant qui se révèle être une vieille connaissance, Peachy Carnahan, ex-sergent artilleur des armées de la reine. Kipling est effaré de voir à quel point l'homme qu'il a connu si alerte semble avoir été brisé par la vie et écoute son récit. Peachy commence par lui rappeler les origines de cette histoire, à savoir la rencontre entre lui, Kipling et Daniel Dravot, hein, et l'étrange marché qu'ils ont passé ensemble. Peachy et Daniel, deux joyeux lurons accusés de toutes sortes de méfaits, estiment que ce sont des raclures comme eux, hein, qui ont fait la grandeur du pays et de la couronne, à obéir aux ordres et à se battre en tant que soldats. Il est temps pour eux d'être un peu plus ambitieux, et c'est peu de dire qu'ils le sont. Les deux gredins décident de se rendre au Kafiristan, hein, contrée fort reculée, et en devenir les rois. Ou plus précisément, étant donné que les peuplades locales ont 32 idoles, ils aimeraient bien devenir les idoles 33 et 34. Le plan, farfelu et quelque peu suicidaire, est pourtant simple. L'endroit est une terre d'affrontement. Leur idée est d'aider le premier chef venu à s'installer à la tête du pouvoir grâce à leur connaissance de la guerre, puis le détrôner pour ensuite prendre toutes les richesses du pays et revenir en millionnaire en Angleterre. Pourquoi cela ne pourrait-il pas marcher ? Après tout, le lieu n'a plus été conquis depuis Alexandre le Grand en 300 avant Jésus-Christ et, je cite, « si un grec a su le faire, nous aussi, on en est capable ». Après avoir pris congé de Kipling, les deux aventuriers vont connaître un long périple où ils se déguiseront en prêtres fous, serviteurs, se battront, traverseront des terres isolées et rocailleuses, des montagnes enneigées et arriveront finalement à destination. Mais ce qui les attend là va dépasser leurs espérances les plus folles.
Ce contrat établi entre moi et toi, prenant à témoin le nom du Tout-Puissant, amen, et ainsi de suite. Primo, que toi et moi ferons cette affaire ensemble, à savoir devenir roi du Kafiristan. Secondo, que toi et moi refuserons pendant le déroulement de cette affaire de regarder une goutte d'alcool ou une femme blanche, noire ou brune, et ce afin de ne pas nous compromettre avec l'un ou l'autre en mal. Tertio, que nous nous conduirons avec dignité et grande prudence, et que si jamais l'un de nous est en péril, l'autre devra rester près de lui, signé par toi et moi aujourd'hui.
Le dernier article est inutile, mais il sonne bien à l'oreille.
L'homme qui voulut être roi a beau se dérouler en flashback et utiliser la voix de Michael Caine, qui joue Peachy, pour soutenir le fil conducteur de la narration, c'est bel et bien l'âme de John Huston que nous pouvons entendre. En réussissant enfin, après 20 années de complications, à adapter le récit de Kipling, c'est une métaphore à peine déguisée de lui-même qu'il met en scène pour notre plus grand bonheur. Difficile hein, de ne pas y voir un parallèle entre les 1000 vies du réalisateur devenu légende hollywoodienne et qui ne cache en aucune façon ses contradictions de noble pirate. L'homme est charmant, canaille, envahissant, truand, réservé, magnifique et misérable. Daniel et Peachy sont à la fois tout cela, deux facettes d'un même individu qui va repousser les limites et dépasser par la même occasion ses rêves les plus fous. L'intelligence du récit est d'avoir un constant recul sur les merveilles qu'ils accomplissent avec un humour bienvenu. Les scènes de guerre se déroulent sous une musique joyeuse et ironique, soulignant l'absurdité du combat. Ils n'arrêtent pas de jurer en disant « par la sainte culotte de Dieu », alors que Daniel est lui-même devenu l'égal d'un dieu aux yeux des peuplades locales, car il a su encaisser un tir de flèche sans saigner ni mourir. La flèche s'étant logée dans sa cartouchière sous sa chemise. L'humour permet de se diriger vers la seconde partie du récit, plus sombre, où Daniel se laisse contaminer par son rôle et où il décide de croire que tout ce qui est arrivé n'est pas une succession d'événements, mais l'accomplissement d'une destinée, et qu'il est effectivement Sikander II, le fils d'Alexandre le Grand, revenu en terre promise. On se doute que cette démesure va entraîner leur perte, à la façon des grands films de John Huston. On y retrouve l'ironie noire du trésor de la Sierra Madre, mais aussi les illusions obsédantes et contre-nature de Moby Dick. L'homme qui voulut être roi anticipe de plus Apocalypse Now de 4 années, avec la même idée du général-soldat devenu roi sauvage, mais cette fois adapté de Joseph Conrad. À tout seigneur, tout honneur, Wildside offre un écrin splendide au film avec une édition grand format limitée à 2000 exemplaires, la plus complète au monde, avec des bonus exclusifs, dont un passionnant retour sur Huston par Jean-Jacques Hano, un autre habitué du cinéma d'envergure, et, il faut le savoir, qui avait initialement prévu de le faire tourner avec Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Et c'est l'occasion d'admirer aussi la performance amusante de Christopher Plummer, qui vient de nous quitter peu de temps, juste après Sean Connery, le mois dernier, dans le rôle de Rudyard Kipling, qui, lui, a rarement été aussi bien servi sur grand écran.
Je veux ton opinion. Est-ce que nous avons vécu bêtement ?
Eh bien, ça dépend de ton point de vue. Je ne dis pas que le monde soit devenu meilleur de nous avoir vus naître.
Ce serait exagéré.
Et pas une larme ne coulera à l'annonce de notre trépas.
De toute façon, je ne veux pas qu'on pleure.
On n'a pas tellement de bonnes actions à notre crédit.
Non. Pas de quoi se vanter.
Mais combien d'hommes sont allés où nous sommes allés et ont vu ce que nous avons vu?
Pas tellement. C'est indubitable.
Même maintenant, je ne changerai pas de place avec le vice-roi en personne s'il me fallait cracher sur mon passé.
Moi non plus.
Voilà, donc vous pouvez faire partie des 2000 pour obtenir ce DVD de l'homme qui voulut être roi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, nous rendrons un hommage à Jean-Claude Carrière qui vient de nous quitter. Ce sera l'occasion peut-être eh bien, de mettre en avant des films de sa filmographie, en tout cas de jouer un blind test sur donc, cette vaste filmographie.